Bonjour, c'est Nathalie Lévy. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast décliné de mon livre Courage au cœur et sac au dos aux éditions du Rocher, production Benjamin Vincent, Watch Audio. D'ailleurs, en passant, abonnez-vous, c'est gratuit. On va vivre ensemble une nouvelle belle histoire de transmission, de partage infini et d'entraide aussi. Vous allez voir. Bonjour Gaëlle Ackermann.
Bonjour Nathalie.
Merci beaucoup d'être là avec nous cet après-midi pour nous parler de toi, mais surtout pour nous parler d'une personne en particulier et de votre histoire. D'abord, qui es-tu ? D'où viens-tu, Gaëlle ?
Alors, je suis parisienne depuis tout le temps, enfin, proche banlieue. Je suis une maman de 4 enfants. Je suis la deuxième dans la fratrie. Voilà, je suis issue d'une famille avec une grande cousinade où j'ai grandi avec beaucoup de jolis souvenirs. Et puis, je suis aussi journaliste.
Alors Gaëlle, de qui parle-t-on aujourd'hui ?
On parle de Clairette, de Mémé Clairette, ma grand-mère, chez qui j'ai grandi jusqu'à presque mes 3 ans. J'ai habité chez elle, chez eux, chez mes grands-parents, mais chez Mémé Clairette, donc elle habitait à Melun. Et on parle de cette femme qui m'accompagne encore, je pense, aujourd'hui.
Comment qualifier cette relation qui a démarré très tôt, ton plus jeune âge ? Comment tu la qualifies aujourd'hui ?
C'était une relation évidente, comme celle d'une mère avec sa fille, ou comme celle d'une grand-mère avec sa petite-fille, une relation fusionnelle, charnelle. Une relation, c'était évident, c'était mémé, voilà.
Alors, à ce moment-là, c'est vraiment toi la petite fille, elle joue le rôle de la grand-mère, elle t'accompagne, et puis tu grandis, et la situation évolue, les choses s'inversent à un moment. Comment ça se passe quand tu grandis, que tu deviens adolescente, etc.
Alors, quand je grandis, ma grand-mère, pour moi, elle n'est qu'à moi. On est pourtant 7 petits enfants. Elle les aime tous et je ne suis pas sûre qu'elle ait fait des préférences. Mais de fait, on avait quand même une relation particulière parce que privilégiée. Et donc, pour moi, elle est à moi. En fait, c'est ma grand-mère. Elle m'a changé les couches. J'ai fait mes premiers pas avec elle. J'ai dû passer avec mes premières cuillères avec elle. Donc oui, ma grand-mère, c'est une relation exclusive. Je la partage, mais effectivement, quand je grandis, je me rends bien compte que j'ai une relation avec elle qui est différente. Quand elle s'en va, je pleure. Quand elle revient, je suis heureuse. Voilà, c'est vrai que j'avais une relation particulière. Je m'amusais à la maquiller. Quand adolescente, les mercredis, c'est vrai qu'en général, on allait avec des copines. Mais moi, ça ne me dérangeait pas de regarder le Club Dorothée avec elle. Et je crois qu'elle aimait, en fait. J'ai l'impression qu'elle redevenait adolescente avec moi. Donc, alors, j'étais avec ma sœur. Mais c'est vrai que je montais régulièrement la voir. On mangeait et puis on regardait les clips d'M6. Elle faisait des crêpes. Et donc voilà, et je ne sais pas qui retombait en jeunesse, si moi je grandissais ou si elle revenait dans ma tranche d'âge. Mais en fait, j'ai l'impression que j'étais sa cure de jouvence. Et elle ne vivait un peu que pour nous, ses petits-enfants, et du coup, pour moi aussi. Mais je m'en sentais un petit peu responsable. Et quand je ne venais pas la voir les samedis ou les mercredis, j'avais l'impression que tout s'écroulait. Et c'était pareil avec mes cousines, elle était très très impliquée, mais c'est vrai que les mercredis, elle grandissait avec moi, elle écoutait le top 50 avec moi le samedi en fin de journée et on regardait, elle aimait bien en fait, elle se contentait de pas grand chose, mais d'être devant la télé avec moi ou avec nous, c'était quelque chose d'extraordinaire, voilà, vraiment ça, je la sentais heureuse, comblée, et elle n'attendait que ça. Et quand on partait comme ça, enfin je dis « on » parce que je ne veux pas non plus me l'approprier, mais quand je partais, elle se mettait à la fenêtre et elle attendait que je prenne le bus, que le bus s'engouffre dans la rue. Et on a l'impression que je partais pour une transhumance de plusieurs jours, alors que dans les faits, je la revoyais 3 jours après.
Et comment tu gérais ça vis-à-vis de tes parents? Est-ce que tu l'as géré? Est-ce que tu avais conscience de cette différence de rapport?
Non. En fait, tout me semblait, comme quand on est enfant, tout nous semble évident et normal. C'est en grandissant, je me suis quand même rendu compte que j'avais une relation exceptionnelle avec elle. Comment je le gérais? J'avais pas à le gérer. Elle était assez... Bon, après, c'est dans une culture aussi orientale, hein, où les femmes, les grands-mères font partie de la famille, rien d'extraordinaire. Peut-être que si j'étais née au Danemark, je pense que ce ne seraient pas les mêmes réflexes. Mais voilà, comment je ne me suis pas posé la question. C'est effectivement en grandissant où je faisais souvent des lapsus. Quand je parlais de ma mère, je parlais de ma grand-mère, je disais ma mère. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'effectivement, il y avait une femme en plus, voilà, dans mon enfance. Mais c'est vrai qu'en grandissant, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de références ou d'exemples. Mon premier 33 tours, c'était ma grand-mère qui m'avait offert, je ne sais pas si on peut avouer, mais j'étais fan de Jean-Luc Lahaye, donc c'est elle qui m'avait offert voilà, mon premier 33 tours. Il y a plein de choses comme ça où... Elle venait me chercher des fois au collège pour en avoir honte. Moi, j'étais contente de l'avoir. Ou... Voilà, donc je ne l'ai pas gérée. Elle faisait partie du décor, en fait, c'est ça.
Et tu as cherché, en grandissant, à l'inclure encore dans ton quotidien? Parce qu'évidemment, quand on devient adolescent, on a d'autres priorités. Tu dépasses l'âge du Club Dorothée, mais tu as du coup des amis, les sorties. Est-ce qu'elle tient toujours le même rôle?
Elle tient toujours le même rôle. Alors effectivement, c'était plus les mêmes centres d'intérêt, mais je montais, parce qu'elle habitait au sixième étage, j'ai pris ce tic de langage, mais je montais encore la voir très régulièrement. De toute façon, jusqu'au bout, quand mon grand-père est mort, elle était donc du coup, elle n'est pas restée longtemps seule, elle est restée 2 ans. Mais on l'a inclus dans notre quotidien. C'est vrai que le samedi, on la laissait pas seule. C'était impensable et infaisable même, en fait. Même si je le voulais, j'avais beau râler et dire « mais ça suffit maintenant, on peut quand même ne pas monter un samedi, c'est pas la fin du monde ». Dans les faits, on ne pouvait pas la laisser le samedi. Donc on l'a inclus. Mon petit copain de l'époque montait aussi voir mes grands-parents. Ça faisait partie de... elle était... Puis je la sentais quand j'avais une peine de cœur, elle m'appelait. Enfin, je l'appelais, je connais encore son numéro par cœur, je pourrais le recomposer. Et je l'ai inclus complètement dans ma vie. Et d'autant plus que moi, j'ai perdu mon père, et 6 mois après, j'ai perdu mon grand-père, et 6 mois après, 10 mois après, j'ai perdu ma grand-mère. Donc en fait, 3 personnes de mon cercle ont disparu, mais comme tu t'es retrouvée seule, elle est. Je pouvais pas la laisser. Elle est venue à la maison. C'est là, à ce moment-là, où effectivement, naturellement, c'est vrai que je me souviens d'avoir un rendez-vous professionnel. Et comme elle faisait des crises d'épilepsie, on savait pas comment la laisser. On l'a laissée sur le canapé avec ma voisine à côté, comme une enfant, en fait. Je lui ai mis son plateau repas. Donc tu attends, je reviens. Et voilà. Donc on est revenu. Et le matin, je me suis pas dit, tiens, je vais la laver, ou tiens, comment on va faire. Ça a été, mais d'un naturel, je l'ai vraiment inclus dans mon quotidien.
Et donc, le prolongement, c'est qu'effectivement, les rôles se sont inversés. C'est plus elle qui te donnait à manger, etc. C'est toi qui l'as fait.
Complètement. Alors, elle dormait avec ma mère, je me souviens. Je dormais à côté, dans la chambre d'à côté. C'est vrai qu'un matin, je me suis dit, mais je me suis toujours occupée d'elle. Je la maquillais petite, je faisais son massage, je lui pilais un petit peu le menton. Voilà. Mais ça a été ma grande et grosse poupée, en fait. Et c'est vrai qu'un jour, je lui dis, attends, je vais te laver, quoi. Alors, par pudeur et respect, je ne l'ai pas lavée intégralement. Mais naturellement, je l'ai mis sur une chaise, je lui ai mis les jambes au-dessus de la baignoire, je lui ai passé le jet. Et alors, elle m'a fait de la peine parce qu'elle me dit, je veux pas que tu me vois toute nue. Et je lui dis, mais tu m'as changé les couches petites, c'est à mon tour de te laver. Voilà. C'est vrai que là, ça me revient, mais il m'est arrivé de lui dire, viens, on va manger au restaurant toutes les deux. Donc, on a mangé toutes les deux au restaurant, mais... C'était vraiment pas un poids, hein. C'était un plaisir de manger avec ma grand-mère le midi, et on s'est fait la petite pizzeria à côté de chez moi. Et alors, j'avais l'impression de lui offrir, mais un voyage. Elle était tellement vite comblée qu'une pizza avec un coca et rentrer avec moi regarder la chance aux chansons. Et c'était pour moi, alors ça me faisait plaisir de lui faire plaisir. Il y a toujours un bénéfice secondaire quand on fait plaisir. Mais je crois que en fait j'étais aussi très très bien en sa compagnie. En fait, j'étais pas avec une grand-mère, j'étais avec Mémé Clairette, c'était pas pareil. Écouter Enrico Macias ne m'a pas pesée. J'écoutais avec elle, elle écoutait des choses avec moi, et c'est vrai qu'on avait l'impression que maintenant avec le temps, je me dis, c'était en fait ma meilleure amie.
C'était une évidence,
et je me souviens petite être terrifiée à l'idée qu'elle puisse un jour disparaître, et je lui disais. Moi, j'étais jeune, mais je disais, si tu meurs, je te garderai debout, en fait, pour que tu puisses tenir. Et je te mettrai une poêle dans la main, parce que c'était l'image de ma grand-mère qui cuisine. Donc l'idée qu'elle puisse un jour disparaître m'était inconcevable. Et je m'étais toujours dit, mais je crois que je ne pourrais pas survivre à son décès. Et en fait, on survit à tout. Mais,
comment tu as géré ?
Alors, ce qui est troublant, c'est que... j'ai rencontré l'homme qui est maintenant mon époux et je crois que ça m'a permis de passer le cap parce que j'ai rencontré mon mari à ce moment-là. Et donc elle est décédée le 1er décembre. Donc on est tous venus à son chevet à l'hôpital et c'était vraiment le tableau de la chanson d'Aznavour, La Mama. Ils sont venus, ils sont tous là.
Elle était malade ?
Elle est morte de chagrin, je pense. Elle est morte après de. Bon, elle s'est laissée aller. Et puis, bon, septicémie, phénomène de glissement, pas de maladie à proprement parler. Et on était tous là autour d'elle à l'hôpital et c'était vraiment. Oui, ils sont venus, ils sont tous là. Et j'ai juste eu le temps de lui dire, quand même. Alors, on veut toujours trouver du sens, mais c'est marrant parce que j'ai couru ce jour-là. J'avais un rendez-vous avec le boulot et j'ai couru. Et donc, là, c'était vraiment une scène de film. L'ascenseur s'est ouvert, la porte s'est ouverte. Et la sienne en face est ouverte. Il a remonté, en fait, de je ne sais plus de quel service. Et on s'est retrouvés toutes les deux comme ça. Je me suis dit, mais en fait, elle m'attend, tu m'attends. Donc on s'est tous retrouvés et j'ai juste eu, je lui ai tenu la main, elle avait très très peur, elle n'aimait pas quand la nuit tombait, à chaque fois elle disait toujours « Ah ça y est, il fait nuit ». Je ne sais pas pourquoi, elle nous disait toujours « Ah ça y est, il fait nuit », mais je pense qu'elle avait terriblement peur de mourir depuis des années. Et j'ai juste eu le temps, donc tout le monde était là, je lui ai dit que c'était une grand-mère extraordinaire, je ne sais pas si elle a entendu, et je lui ai juste dit « j'ai un nouveau copain, ma mimi, j'ai un nouveau copain ». Et je ne sais pas si elle a entendu, mais voilà.
Tu savais que c'était important pour elle de te savoir, accompagnée.
Elle était très soucieuse pour moi. Je venais de me séparer. Enfin, je venais 6 mois avant. Je m'étais séparée de mon copain avec qui j'étais restée très longtemps. Et elle était soucieuse. Elle disait, Samgaël, la petite, comment elle va, la petite. Et donc, je voulais qu'elle parte complètement rassurée en me disant, j'ai un nouveau chéri, tout va bien. Bon, c'est vraiment sa disparition, je l'avais tellement appréhendée, mais alors j'étais malheureuse comme les pierres, mais le fait d'avoir, peut-être ça, j'ai l'impression de me dire, rien se fait par hasard, donc j'ai passé le cap, mais c'était dur de me dire, quand j'ai eu mes enfants, de me dire, il n'y a pas mémé, quoi, c'était vraiment, du coup elle ne m'a pas vu mariée, elle ne m'a pas vu mes enfants, ça c'est quelque, mais bon, c'est quelque chose qui était difficile. Mais c'est vrai que j'ai toujours, quand mon grand-père est décédé, je la sentais paumée. Je me souviens de dire, bon, je rentre à la maison, je fais le ménage, je m'en occupe. En fait, j'avais l'impression que c'était aussi, c'était chez moi, quoi. Enfin, je devais nettoyer le lieu comme je nettoyais ma chambre, quoi. C'est vrai que c'était une relation pour moi évidente, mais que maintenant, plus je vieillis, plus je me dis qu'elle était pas évidente, enfin, plus que banale, en fait, ouais.
Et comment tu enseignes ou transmets aujourd'hui à tes enfants ce lien ? Est-ce que c'est important pour toi de le faire perdurer autrement avec ta maman ? Est-ce que voilà, la transmission, c'est fondamental ?
Mémé Clairette, tout le monde la connaît, je pense. Je fais pas des séances de mémoire à la maison, mais j'en parle tellement en fait que voilà, on la connaît, mes enfants la connaissent. Est-ce que j'en parle avec ma mère? Oui, j'en parle, mais comme une petite fille parlerait de sa grand-mère. Je pense qu'elle sait très bien que ma relation à sa maman était particulièrement forte. Enfin, c'était Voilà, donc j'en parle, ça passe par, voilà, par tout un folklore. C'est vrai qu'on rigolait tout à l'heure avec Enrico Macias, mais moi, quand j'entends, je l'entends les premières notes, je suis retour vers le passé. Et voilà, donc comment je le transmets, par plein de choses, par des gâteaux, par des odeurs, par toute une culture. C'est vrai, quand je regarde le coup de sirocco de Roger Hanin, j'ai une boule au ventre parce que je me dis, oh, j'ai l'impression de voir mes grands-parents m'aimer devant la télé comme ça. Quand j'entends le générique, parfois, je sais pas, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, le générique de La Chance aux Chansons, ça me met un truc dans le bidon. Je me dis, ah oh là, voilà. Donc oui, je pense que je la fais revivre à travers ma façon de cuisiner, de vivre mon judaïsme, je sais pas. Enfin, j'aimais bien ce côté un petit peu. Laïque, c'est tendance, mais on fait ce qu'on a envie de faire. Enfin, il y avait une approche de tradition, tout ça, dans laquelle je me retrouve pleinement aujourd'hui et que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Ah ouais, mais c'est vrai que mes enfants la connaissent. Il y a une photo d'elle, je suis dans ses bras, dans le salon. Oui, c'est. J'ai donné son deuxième prénom à ma fille, donc oui, elle est tellement là que voilà, c'est pour ça que ce projet a résonné dès que j'ai entendu parler, quoi. Mais
qu'est-ce que tu lui dois, selon toi ?
Une espèce de simplicité, quand même, avec son sens noble du terme. Elles étaient simples. Hein. Elles étaient, maintenant, on dirait que c'est des petites gens. C'est vrai qu'elles n'étaient pas très... C'est pas méchant, pas du tout cultivées. Voilà, ils sont venus d'Algérie en 62. Ils n'ont pas du tout fait fortune, comme le veut la légende urbaine. Je fais partie de ces juifs séfarades qui ont fait fortune en vendant des tissus ou autre chose. Donc c'était des petites gens sans prétention, mais avec des fondamentaux quand même.
Des valeurs.
Ah ouais, des vraies valeurs, une espèce d'honnêteté, de sens de la famille. Enfin, c'est une expression tellement galvaudée, mais vraiment, effectivement, il peut y avoir la guerre nucléaire, il peut y avoir un rendez-vous très important. On vient vendredi soir à la maison parce que c'est comme ça. Parce que... On se respecte, on se dispute pas, c'est pas bien d'être rancunier. Enfin, vraiment des valeurs de. Ouais, je pense élever mes enfants dans leur lignée, vraiment, en essayant d'être simple, même si l'époque est difficile pour rester simple. Mais ouais, j'essaye d'épurer un maximum parce que il y avait pas grand chose. Mais j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup, 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 quoi. Voilà.
Qu'est-ce qu'elle te disait sur tes choix de vie professionnelle?
Ouais, alors ma grand-mère était fière de. Voilà, on pouvait lui offrir un bavoir. Elle était hyper fière. Mes débuts avec Public Sénat, enregistré avec ses VHS, c'était trop mignon. À chaque fois, elle savait pas comment on enregistrait, comment on rembobinait. C'était. On s'énervait, on rigolait, mais on s'énervait. Et donc, très fière. Alors, elle me disait toujours, là, mais. Parce que j'avais un défaut de langage quand j'étais petite. J'avais pas un cheveu, j'avais une perruque, je pense. Donc voilà, j'avais des crocs. Et alors après, on trouvait que j'avais une élocution assez, assez fluide. Donc souvent, elle disait, oh, on dit toujours avec ton grand-père, t'aurais pu être avocate. Alors c'était mignon parce que ça n'a pas de valeur, mais j'étais tellement fière de ce que tous les enfants faisaient. Mais je sais, j'ai commencé à Radio J, donc elle écoutait Radio J. Bon, de toute façon, elle écoutait avant moi, mais voilà. Et quand j'avais fait donc Public Sénat, elle était complètement en admiration pour cette époque, en plus passer à la télé. Alors, maintenant, c'est complètement... Pour eux, passer à la télé, c'était quelque chose d'extraordinaire. Là, elle me dit, oh, t'as rencontré Monsieur Alcat. Kébache, hein, bon. Voilà. Voilà. Non, ils étaient très très fiers de ce que je faisais. Tout, en fait, j'avais l'impression que les rôles effectivement étaient inversés. Ils me demandaient toujours mon avis, notre avis en général, hein, aux enfants, aux petits enfants. D'après toi, je vote pour qui? D'après toi, je dois voter. Dis-moi pour qui je dois voter. Je me disais, mais tu... donc tout ce qu'on faisait, ce qu'on disait, était vraiment érigé en valeur universelle. On avait raison. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce qui se passe? Voilà. Je pense que on était des références et. Puis avec moi, des fois, elle était mignonne parce qu'elle me disait, explique-moi, je comprends pas tout, en fait. Je comprends pas tout, dis-moi. Mais voilà, donc c'était vraiment, ils étaient simples, mais tellement, tellement grands. Voilà. Les petites gens, tellement grandes, quoi. Donc, très, très fière de moi, oui, je sais.
Qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui d'elle?
Sa voix, parce que quand les gens disparaissent, la voix, c'est très, très difficile. C'est quelque chose qui me... Sa voix, sa façon de me parler, même si elle était loin des caricatures qu'on peut se faire des mamas juives, mais j'aimais bien. Elle avait un regard très doux. Elle est très angoissée, mais très doux. Et c'est vrai que ce qui me manque, bah, c'est aussi la relation charnelle. Moi, j'embrassais ma grand-mère comme du bon pain. Je massais ses bras et je faisais des bisous. Oui, ça a été hyper... c'était un gros doudou, hein. C'était... elle avait une façon de, voilà, de me pétrir. Elle avait une main comme ça, toujours... je me souviens un jour, elle était rentrée de voyage et elle était rentrée, venue me voir à 17h. Ma sœur était déjà là. Et c'est marrant parce que c'est indescriptible, hein, mais je rentrais du collège, je l'avais vue, je pensais pas qu'elle allait venir ce jour-là. Et il y a que nous deux qui pouvons témoigner de ça, mais une espèce de complicité quand on s'est vus. Je lui dis, ah, t'es là, enfin, comme si j'avais retrouvé, une amie ou. Elle était venue plus tôt pour me voir. Enfin, ce moment-là, ce regard-là, c'est difficile à raconter parce qu'il nous appartient. Mais je me souviens de son petit sourire. Je suis venue te voir, en fait. Et ça, je l'ai. J'étais en 6e ou 5e et j'ai encore le regard, l'exactitude de ce regard et qui en disait long sur notre complicité. Ouais. Mais oui, ça me manque son... Enfin, je l'appelais très régulièrement et ça va ma fille. C'est vrai que c'était voilà, c'est me manque oui, mais alors bon, ça c'est toujours propre à ceux qui ont perdu mais parfois je me suis amusée à composer le numéro juste pour me dire comme ça je l'oublie pas. Je pourrais le refaire par cœur là, ce 01 48 57 58 40, mais il est gravé. Alors si un jour je m'en souviens pas, bah je commencerai à consulter. Et alors un jour, je suis passée effectivement sous sa fenêtre et c'est sous-cortical. Hein, c'est-à-dire que je monte la tête. Bon, c'est vrai que bon, il y avait personne à la fenêtre, il y avait plus, il y avait plus cette ombre. Mais comme j'ai habité longtemps à Montreuil, là où elle habitait, je pouvais passer régulièrement. Et un jour, je suis passée, je l'ai dit à personne et je me suis dit bon, je vais essayer de passer sans. En fait, c'est vraiment sous-cortical. Quoi. J'ai un réflexe. Et voilà.
Est-ce que ça représente quoi là d'en parler pour toi? C'est un hommage? C'est une manière pour toi d'être en ligne ou en paix avec toi-même? C'est quoi?
C'est l'occasion de lui rendre hommage. J'en ai jamais parlé en fait. J'ai essayé juste d'écrire. Et puis je me dis ça intéresse personne. C'est nul. J'efface. J'ai toujours eu envie de faire quelque chose autour de ma famille. Enfin, ces relations un petit peu simples et toujours un petit peu difficiles quand même. Là, pour moi, bah, je me suis dit, peut-être que ça va m'économiser des séances de psy. Ça va être libérateur. Je me suis dit, ça va peut-être libérer quelque chose. Voilà, c'est pas anodin de vivre ces premières années à côté d'une autre personne que sa maman. Mais voilà. Alors, je fais bien, j'ai beaucoup d'amour, mais ça laisse forcément des traces. Voilà.
Et tu sais, est-ce que tu as échangé avec tes cousines? Est-ce que, puisque vous êtes 7, je crois, c'est ça, 7 petits-enfants, ouais. vous en êtes parlé? Vous vous êtes livrés là-dessus?
Oui, on sait que Gaëlle, elle était chez Mémé. Mais je crois qu'ils sont très très loin d'évaluer, très très loin de comprendre. Avec ma sœur, je pense qu'il peut vraiment mesurer, puisque elle m'a revue au bout de 3 ans. Enfin, mes parents venaient me voir quand même tous les week-ends. Hein. Mais non, ils savaient très bien que j'étais très 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 proche de Mémé, mais je suis pas sûre qu'ils se rendent compte, et c'est peut-être normal parce que c'est une relation qui nous appartient. Et puis surtout, c'était une grand-mère qui était vraiment aimante pour toute la cousinade. Hein. Ça n'a jamais eu de. Voilà.
Aujourd'hui, on est dans une société du jeunisme, on est dans une société individualiste. Alors, bien sûr, il y a tes origines, ton éducation, etc. Est-ce que en parler, c'est peut-être une manière de dire regardez, il faut peut-être pas les laisser, nos aînés, il faut les accompagner autrement. On a tous des portables, on peut passer 2 minutes 30 une fois tous les 5 jours avec eux. Est-ce que tu es un peu dans le regret de voir la manière dont on les laisse sur le bas-côté de la route?
Alors oui, je sais pas, que moi j'ai pas d'exemple hein, de gens qu'on a laissés. Oui, effectivement, mais il faut pas que ce soit en fait une injonction. En fait, Moi, je l'ai fait vraiment tellement spontanément, sans me poser la question, en fait, parce que ça me faisait aussi du bien. C'était même pas que pour lui faire plaisir. Oui, il faudrait, évidemment, c'est vrai qu'on a, on a peut-être pas assez cette culture maintenant de dire les aînés font partie aussi de nos vies. Quand ma grand-mère s'est retrouvée seule et de plus en plus dépendante, la question s'est posée. Qu'est-ce qu'on va en faire, en fait? Enfin, c'est horrible de poser cette question à 7 heures, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis, c'est pas évident parce que les autres... Bon, moi, ma mère était malheureusement veuve. C'est peut-être plus simple, mais c'est vrai que pour les autres... Je peux comprendre, il y a des maris, il y a des familles. Donc, c'est pas évident d'intégrer une personne âgée dans une... Alors, on n'a pas eu vraiment tellement le temps de se poser la question parce que malheureusement, elle a lâché la rampe et elle a dû, elle a fait tirer sa révérence. Mais on s'est dit, on va. Et puis, je crois qu'en fait, personne n'avait vraiment réfléchi à la mettre en. C'était inconcevable. En fait, je pense que tout le monde le disait, même moi. Honnêtement, j'ai dit, mais. Parce qu'en plus, j'avais l'impression que j'étais la seule qui était encore à la maison. J'étais dispo, en fait. Et je me disais, non, mais c'est pas sur moi que ça va retomber, elle en est hors de question. Alors, j'avais ces mots-là. Et puis, en fait, au fond. Pour le terreau de question de la lâcher quelque part. Enfin, c'était pas. Non, c'était pas. Oui, on s'était dit, on va la laisser. Faut qu'on s'organise. Mais en fait, non. En fait, la société nous poussait à dire quelque chose qu'on n'allait pas faire. On disait, on a notre vie. On a notre vie, puis quoi encore, on va pas non plus se sacrifier. Alors, il y avait cette espèce d'injonction que la société nous disait de dire, mais au fond. Hors de question qu'on la mette dans un. Et puis quoi encore, en tout cas, moi je pense que je m'y serais opposée. Et puis je pense que la cousinade entière ne l'aurait pas abandonnée. Le fait est, c'est qu'elle est restée chez moi. Elle était un peu donc, chez ma tante, donc chez la fille aînée qui s'en occupait aussi. Et puis, après, elle était comme on habitait. On avait une unité géographique, on était plus près. Mais c'est vrai que le dernier temps, elle a été chez moi. Elle est tombée chez moi. Elle a été. Emmener de chez moi à l'hôpital et puis de là ça s'est emballé, mais je pense pas qu'on, je sais pas si on l'aurait vraiment placé, non je pense pas, c'était pas dans notre culture. Et c'était indépendamment de la culture, parce qu'on peut aussi raisonner en dehors de notre culture et avoir notre libre arbitre. On serait mal vu aller la voir le samedi, lui amener son télé 7 jours et sa boîte de chocolat. Non, ça aurait été vraiment insuffisant et ingrat au regard de tout ce qu'elle Enfin, c'est même pas une reconnaissance, c'est que c'était pas. Non, ça le faisait pas, comme on dit.
Ouais. Qu'est-ce qui a été lourd, peut-être par moment, pesant?
Elle a fait partie de cette génération de femmes qui n'avaient pas de copines, qui n'allaient pas au cinéma. Enfin, ces personnes-là, elles sont mariées à 25 ans, elles ont été. Voilà, elles ont fait leur vie pour leurs enfants. On a beau dire, on fait pas la vie pour nos enfants. Pas les enfants pour nous, je veux dire, faut être aussi un peu honnête, faut se l'avouer, on se les fait un petit peu pour nous. Non, mais je trouve que cette phrase, elle est un peu hypocrite. Donc du coup, elle a fait aussi des enfants pour elle, elle va pas se mentir, et du coup, elle nous a demandé effectivement beaucoup. Donc elle a très mal, puis elle s'est arrêtée de travailler pour me garder. Donc je me sentais aussi un petit peu, qu'elle a été à la retraite hyper jeune. Et c'est vrai que souvent elle s'ennuyait, parce qu'elle ne savait pas s'occuper, cette femme. Donc elle c'est un petit peu. On la sentait désœuvrée. Quand on n'était pas là, on la sentait désœuvrée. C'était difficile de combler un vide que on ne pouvait pas non plus pallier à. Elle ne savait pas s'occuper. Elle était. Sans nous, elle était désœuvrée. Et c'était un peu pesant. Parfois, même si moi j'allais spontanément, les mercredis, franchement, je lui dis, viens, on va à la cafétéria du Monoprix, on mangeait une crêpe, un coca, ça me faisait plaisir. Elle rentrait dans son bus toute seule, je la ramenais, mais des fois, je pouvais pas non plus. Donc ça, parfois, effectivement, je trouvais que c'était pesant. Je lui disais, mais sors, il y a une voisine, va aussi. Elle me fait, mais ça va pas, on sort pas seule avec une femme, c'est toute une aussi, une génération, Donc c'était un peu pesant, on se sentait culpabilisé. Je reconnais que parfois je culpabilisais, je me dis mince, j'ai pas. C'était un peu pesant.
Qu'est-ce qui vient d'elle chez toi?
J'ai gardé l'image d'une femme vraiment dévouée à sa famille, en fait. C'est-à-dire que il fallait sauver sa famille, la famille, les enfants, les petits enfants, c'était vraiment leur leur raison de vivre, et il fallait tout faire. S'il y en avait un des trois enfants qui était dans l'embarras, c'était vraiment, il dormait pas. Enfin, je veux dire, c'est tous les parents sont comme ça, mais cette tolérance, vraiment, cette ouverture d'esprit, malgré tout. Ça m'avait vraiment étonnée à l'époque. Et je disais à ma sœur, ça va coincer chez eux quand même, ça va coincer. Et en fait, on est parti faire l'ENE, qui est une cérémonie quand même. Tu dois connaître l'ENE en Bretagne. Enfin, un truc vraiment, mais je ne sais pas ce qu'on a foutu là-bas. Mais non, ils étaient hyper ouverts. Ils ont parlé avec toute la belle famille de ma sœur bretonne en leur expliquant c'était quoi l'ENE, vous connaissez ça. Et je me suis dit, je ne sais pas si moi, je serais aussi ouverte qu'eux, en fait. Je les ai trouvés vraiment d'une tolérance. Ils étaient tellement fiers, en fait, de parler de leur culture et de voir que leur tradition s'exportait en terre bretonne. C'est assez surréaliste, quand même, cet événement. Quand même. On est parti donc près de Nantes faire l'ENE avec les youyou, avec le couscous et je sais pas quoi. Et donc, ma grand-mère qui expliquait, oui, alors on fait ça comme ça, c'est pour porter bonheur et tout. Et je me dis, waouh, on est quand même, je suis ta belle famille avec Mémé, quoi. C'était surréaliste. Et je me dis, mais en fait, c'est parce qu'ils étaient, je crois, quand ils nous voyaient heureux, ils étaient heureux. Mais il y avait quand même cette espèce cette vraie tolérance. Même si le mot maintenant ne veut plus rien dire, mais chez eux, il avait vraiment beaucoup de sens.
Dans les grandes décisions de ta vie, depuis son départ, dans les tournants, les moments difficiles, à quoi tu te raccroches, s'agissant d'elle, bien sûr, et s'agissant de tes grands-parents
Je ne sais pas si je la convoque pour prendre des décisions. Je n'ai jamais intellectualisé la chose. Alors, parfois, c'est vrai que je m'interroge beaucoup sur ma carrière, qui est en zigzag. Souvent, je me dis, quel échec, j'ai tout foiré, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Bon, moi je me dis, bon, pour l'instant, j'ai un peu réussi ma famille. Et je me dis finalement, c'est peut-être le plus important. Alors c'est peut-être parce qu'ils m'ont transmis ça, cette valeur. Et voilà, je me raccroche à elle peut-être de cette manière-là. Et voilà. Mais je la convoque pas, je me dis pas, est-ce que... Je veux travailler parce que ma grand-mère m'a toujours dit « Travaille, c'est très important de travailler. Si tu dois acheter ton rouge à lèvres, il ne faut surtout pas que tu demandes le sou à ton mari. » Voilà. Voilà. Non, très féminine à l'époque. C'est vrai que... voilà, elle était beaucoup plus féministe que les néo-féministes aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'elle m'a toujours dit « Moi, je ne supporterai pas de demander de l'argent à ton grand-père si je veux m'acheter un rouge à lèvres. » Voilà. Alors, j'ai gardé ça d'elle. C'est vrai qu'il faut travailler. Et je le disais à ma fille, il faut travailler. Mémé, elle me dit toujours qu'il fallait travailler. Donc ça, j'ai gardé ça d'elle, cette espèce de démence. Il faut travailler. Il ne faut pas rester au crochet de son mari. Ça, j'ai... voilà. Et voilà. Mais qu'est-ce que j'ai d'elle ça, il y a des choses qui me viennent, oui. Cette façon qu'elle avait, oui, de se maquiller quand elle mettait le rouge à lèvres sur ses joues et qu'elle étalait avec ce bout des doigts. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, en fait. Et ma fille s'est moquée de moi. Et voilà. Et donc, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais on reproduit des gestes qu'on a assimilés petites, quoi. C'est, voilà. Mais oui, travailler, je me raccroche. Il faut travailler, voilà. Il ne faut pas dépendre de son mari. Mais bon. En 2020, c'est un peu surfé ce que je dis, mais bon.
Si c'était à refaire avec elle, votre histoire, votre parcours,
Je referais exactement. J'aimerais bien refaire, revoir le club Dorothée avec mes bouteilles de coca en verre et des crêpes. Je referais tout. Je referais même plus, je pense. Il y a un truc où, avec ma cousine, on s'en est souvent. Elle me disait, quand est-ce que vous venez dormir à la son grand kiff, comme on dit. Elle aurait adoré qu'on dorme chez elle le vendredi soir. Je sais pas pourquoi, mais juste pour nous faire les tartines le matin. Et à chaque fois, on le disait, oui, on dormira, mais on l'a pas fait. Et bon, on n'en fait jamais assez. C'est vrai que souvent, on se dit, oh, on aurait dû dormir chez elle quand même. Ça nous faisait quoi de dormir? Voilà, on serait peut-être... quand elle est morte, je me suis dit, j'en ai pas fait assez... Avec la peine, maintenant je pense que j'en ai. Je dis pas que je me veux pas de médaille, mais je pense que j'en ai fait beaucoup. Je l'ai vraiment, vraiment accompagnée. J'ai été présente. Alors évidemment, jamais ce serait pas assez. Elle en demandait toujours plus si je l'avais écoutée. Voilà. Mais je pense que j'ai été présente. Je referai tout. Je regrette pas. Peut-être que j'ai ce petit truc en plus parce que j'ai été avec une personne âgée. Et maintenant qu'on en parle et qu'on réfléchit, mais je pense qu'effectivement, ça nous apporte quelque chose. De grandir avec nos aînés. La vieillesse, c'est pas beau. Hein. C'est pas beau, les corps qui vieillissent. Il faut le savoir, quoi. C'est pas beau, le corps d'une femme qui vieillit, c'est tout flétri. C'est comme un bébé, hein. Ça sent pas bon. Et si, puis ça mange pas bien, et puis ça bave, et puis c'est pas beau la fin. C'est pas beau la fin. C'est pas beau. Effectivement, je suis très admirative des gens qui sont en gériatrie. Mais je pense que quand on aime les gens, ça sent moins bon, ça sent moins mauvais. En fait, voilà, c'est ce que je me dis. Ça sent moins mauvais de s'occuper d'une personne âgée quand c'est sa grand-mère. Mais c'est vrai qu'à la fin, il y a des choses qui sont pas belles. C'est pas grave. Mais du coup, je pense que ça donne un petit peu plus de. On sait comment ça se termine, quoi. Voilà. C'est pas beau la fin.
Mais on va pas conclure là-dessus.
Non.
Non, je voudrais savoir si elle a eu conscience de ce que tu faisais pour elle, si elle t'a dit merci. Parce que c'est pas nécessairement une génération qui a le merci facile.
Elle m'a pas dit merci, non. Non, non. Elle m'a pas dit merci. Mais elle savait qu'elle pouvait compter sur moi, je pense. Non, merci, non. Je sais pas, c'est pas effectivement une génération qui se regardait le nombril, qui était très psy et compagnie. Elle savait qu'on. Petite, j'ai le souvenir où on faisait tous des colliers de perles et tout le monde avait fait un collier à quelqu'un. Et j'avais fait un collier pour elle en fait. Elle m'avait dit Ah, toi, tu m'en as fait un. Donc, voilà, c'était tacite, hein, on n'allait pas se faire des grandes déclarations, mais. Non, elle m'a pas dit merci, mais je pense qu'elle savait que j'étais là. Elle savait que j'étais là.
Merci Gaëlle pour ces confidences.
Merci à toi de m'avoir donné l'occasion de parler sur Mémé. Je suis contente d'avoir parlé d'elle, parce que même si on en parle souvent, j'ai rarement autant parlé d'elle comme ça. C'était son après-midi, donc ça me fait plaisir de lui avoir dédié un après-midi. Voilà.
Merci à toi et tout le meilleur. Merci de votre écoute et de votre fidélité à Courage au cœur et Sac au dos, le podcast. Hashtag CCSD sur Twitter pour échanger et dialoguer. Et si vous souhaitez prolonger ce moment, je vous rappelle que mon livre Courage au cœur et Sac au dos aux éditions du Rocher est dans toutes les bonnes librairies. J'y raconte mon histoire, ma relation singulière avec Rosine, ma grand-mère. Merci à Benjamin Vincent, Watch Audio, pour la production, le partage et les bonnes ondes, bien sûr. Et puis rendez-vous très vite pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre, une nouvelle belle histoire intergénérationnelle.